Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être en direct du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors dans notre grand dossier du jour, on va revenir sur l'utilisation des écrans chez les jeunes. Consoles, tablettes, smartphones, ce sont des outils géniaux, mais comment faire en sorte que nos enfants, nos ados surtout, les utilisent bien? On vous donnera des conseils pour leur apprendre aussi par exemple à naviguer sur Internet ou à gérer leur vie connectés en toute sécurité. Et pour nous aider dans cette tâche, nous recevrons en studio le docteur Serge Tisseron. Il est psychiatre et psychanalyste. Ensuite, comme tous les vendredis, il y aura bien sûr la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il va nous aider à bien préparer notre peau au soleil. Je crois que cette chronique va nous transporter vers une météo plus estivale. Ça ne nous fera pas de mal. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de ses amis, de ses collègues dont la vie sexuelle un peu trop affichée peut parfois nous mettre mal à l'aise.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Virginie. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, j'aurais voulu savoir si on pouvait vivre un postpartum après une fausse couche de 3 mois. Je vous remercie. Bonne émission.
Pour vous répondre ce lundi, bien sûr, parce que j'ai dit vendredi juste avant, alors on est lundi, mais non, on n'est pas du tout vendredi, ok. Alors Virginie, on a interrogé pour vous Anna Roy, elle est sage-femme, on l'écoute.
Il y a un véritable tabou qui entoure cette question, la fausse couche. Il y a une étude récente qui dit que 10% des femmes souffrent d'une fausse couche au cours de leur vie. Donc c'est vraiment un phénomène très fréquent et pourtant dont on parle assez peu. Et donc je voudrais rassurer cette femme et lui dire que si elle se sent déprimée, triste, etc., c'est parfaitement normal. Il ne faut pas hésiter à la prendre en charge. Ces symptômes un peu de tristesse et de dépression sont très fréquents après une fausse couche. Il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas hésiter à aller voir soit une sage-femme, soit un gynéco, soit un médecin généraliste et puis vous lui exprimez ce que vous ressentez. En tout cas, il ne faut pas rester seul dans son coin. Parce que non seulement c'est légitime, mais ça doit être pris en charge. Si vous désirez obtenir une nouvelle grossesse très prochainement, vous le pouvez. Autrefois, on était à vous dire « Non, il faut attendre 6 mois, il faut attendre 1 an ». Aujourd'hui, tout ça est terminé. C'est vraiment vous la chef. Vous faites bien ce que vous voulez. Et ce n'est pas parce que ça n'a pas marché cette fois que ça ne marchera pas la fois prochaine. Donc, surtout, gardez espoir et puis faites vraiment comme vous voulez.
Voilà, c'était Anna Roy qui est sage-femme mais aussi créatrice, hein, je le rappelle, du podcast Sage Meuf, produit par Europe 1. Elle était au micro de Barbara Silvera Sonigo. À présent, Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous. C'est la question d'Anthony qui vit près de Grenoble. Écoutons sa question.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. J'ai une question pour vous. La nuit, je vais très régulièrement aux toilettes pour uriner. Et dernièrement, j'ai fait des tests pour le diabète car mon médecin m'a dit que ça pourrait être la cause. Mais tout est normal dans les résultats. Est-ce que ça pourrait être autre chose? Merci pour votre réponse, à bientôt.
Jimmy, on va reprendre tout à zéro. Hein. D'abord, un homme adulte qui se lève donc souvent la nuit, il ne nous donne pas exactement son âge, mais pourquoi son médecin pense en premier lieu éventuellement à peut-être un diabète?
Alors, tout d'abord, un homme jeune ne doit pas se lever la nuit pour aller uriner, sauf de temps en temps, une fois ça peut être acceptable. Au-delà, c'est qu'on pense qu'il y a une polyurie nocturne, on appelle ça aussi une nicturie, c'est le fait d'aller faire pipi la nuit. C'est fréquent lorsqu'on vieillit un petit peu, c'est 70% des hommes de plus de 70 ans. Donc on sait que c'est important, mais en revanche, chez les sujets jeunes, eh bien, une des causes qu'on doit éliminer, c'est le diabète, car il y a ce qu'on appelle un syndrome polyuropolydipsique. Vous allez boire beaucoup et en réponse, faire beaucoup pipi lorsque votre taux de sucre est très élevé. Et c'est un diagnostic qui est parfois assez évident, mais qui peut traîner dans le temps. Et donc, les médecins ont souvent tendance à prescrire une glycémie pour savoir quel est le taux de sucre et savoir est-ce que c'est un diabète. Et ça, on va le remarquer chez des sujets jeunes et chez des enfants. Lorsqu'on vieillit, le diabète de type 2, un peu de l'homme mature, de 45 ans.
Qui grossit un peu.
Exactement. Ces symptômes sont peu bruyants. Et ils n'ont souvent pas ces signes d'aller faire pipi la nuit. Donc, il était justifié de croire que c'était ça. Mais, encore une fois, il y a d'autres nombreuses causes à évoquer une fois que votre glycémie est normale.
Alors moi, je ne sais pas, en tout cas, faire pipi la nuit chez un homme, alors jeune apparemment, moi ça m'évoque quand même peut-être un problème de prostate, je ne sais pas.
Alors ça peut, mais avant il faut s'intéresser aussi à l'hygiène de vie. S'il prend beaucoup de café, faut pas oublier
les
que c'est diurétique.
Et exactement. Oui, évidemment.
L'alcool fait aussi faire pipi puisqu'elle va bloquer une hormone qu'on appelle l'hormone antidiurétique. Normalement la nuit, vous avez une hormone qui vous empêche de vous lever pour faire pipi. Et bien lorsque vous buvez un verre de vin ou une bière, et bien cette hormone ne va plus marcher et donc vous allez vous lever pour uriner. Et puis, vous avez le droit d'avoir d'autres pathologies comme un syndrome œdémateux. Lorsque vous avez des œdèmes au niveau des jambes, et bien lorsque vous êtes allongé, et bien c'est la position idéale pour éliminer les œdèmes durant la nuit. Même chose sur certains traitements. Si vous avez de l'hypertension artérielle, et que vous avez un traitement diurétique, eh bien, vous allez faire plus pipi. Donc, on se rend compte qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent donner ça. Et puis, on parle de pipi, mais on oublie que des troubles du sommeil peuvent aussi donner des envies d'uriner la nuit. Si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil, vous allez avoir des micro-réveils dans la nuit et vous levez pour aller uriner. Même chose si vous avez le syndrome d'impatience, les jambes sans repos. Vous allez aussi vous réveiller. Donc, on se rend compte que c'est bien plus complexe qu'une histoire de prostate, même si ça peut être effectivement un problème de prostate.
Et donc, prostate, ça pourrait être adénome de la prostate, c'est-à-dire une grosse prostate, même jeune, ça peut arriver ?
Oui, la prostate, on l'a dit, hein, c'est une espèce de centrifugeuse à spermatozoïdes qui permet justement à la reproduction. Mais lorsque cette prostate augmente de volume, elle va venir appuyer sur les voies urinaires, la vessie et les petits conduits. Et à ce moment-là, vous allez avoir plus envie de faire pipi, notamment la nuit, mais aussi la journée. Et parfois, vous allez avoir du mal à pisser, le jet va être un peu moins vigoureux. Et donc, à ce moment-là, direction le médecin généraliste pour avoir le droit à un petit toucher rectal. Et puis,
L'urologue,
l'urologue, il refera un toucher rectal.
Ah bah génial, deux
touchers rectaux valent mieux qu'un.
Très bien. Et si c'est ça, si effectivement la cause vient de la prostate, même chez un homme jeune, ça se traite, il y a des solutions quand même.
Il y a des solutions, on propose toute une gamme de traitements suffisamment efficaces pour permettre de réduire justement la gêne liée au fait.
Il y a des médicaments d'abord, on n'est pas obligé d'aller tout de suite.
Et puis dans un second temps, lorsque les traitements ne marchent pas ou si jamais il y a trop de complications, une vessie qui est en permanence en train de lutter à cause d'une prostate peut fatiguer vos reins, et bien à ce moment-là, on peut proposer un traitement chirurgical. Alors là, il y en a plusieurs. On va pouvoir raboter votre prostate, hein, couper des petits morceaux. On passe une petite caméra par le zizi, on vide justement cette prostate. Et puis la qualité de vie ensuite, eh bien, on la retrouve en quelque sorte et ça se passe très bien. Ne vous inquiétez pas.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité en studio aujourd'hui pour ce dossier du jour. C'est vous, docteur Serge Tisseron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste et membre de l'Académie des technologies. Vous êtes également le co-auteur avec Sophie Bordet-Pétillon du livre « Les écrans et moi » aux éditions IG. Alors docteur Tisseron, ce livre dont je viens de citer le nom, il est pour qui ? Il est pour les ados, les enfants ou il est aussi pour nous, les parents ? Il est pour qui ?
Ah, il est pour les familles. Alors sur la couverture, en effet, il y a des dessins d'enfants qui sont en train de badifoler dans leur lit superposé. Mais c'est évidemment un livre pour inviter les enfants et les parents à parler ensemble des écrans. Parce que la technologie numérique évolue très très vite et beaucoup de parents sont ignorants des mêmes choses que leurs enfants. Même parfois, les enfants en savent un peu plus sur certains sujets. Donc, ça serait vraiment dommage qu'ils n'échangent pas entre eux. Et ce livre est fait pour les inviter sur chaque sujet qu'on va voir concernant les écrans, dire ce qu'ils en pensent, dire ce qu'ils en savent et puis éventuellement chercher plus d'informations ensemble.
Et justement, docteur, est-ce qu'on sait combien d'enfants en France possèdent au moins un outil numérique ?
Je pense qu'une bonne moitié au minimum, mais ça dépend des âges, parce qu'enfant, vous savez, c'est de la naissance à 18 ans. Donc à partir de 12-13 ans, je crois qu'on peut dire 100%, et avant, heureusement, pas encore au berceau.
Alors votre livre, il est très pédagogique. Franchement, moi, en tant que maman qui m'interroge sur ces questions, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Pour démarrer, vous expliquez comment fonctionne Internet dans le bouquin, parce qu'ils ne le savent pas déjà, sérieusement, les jeunes, comment ça marche Internet quand même. Non, ils sont nés avec finalement, ça ne va pas de soi.
Ah mais oui, vous avez dit, ils sont nés avec. Mais alors, vous savez, il y a quelques années, il y a des soi-disant experts qui ont dit « mais il n'y a pas besoin d'expliquer le numérique aux enfants, ils sont nés avec ». Comme si être né au moment où on inventait la voiture, ça dispensait de passer son permis de conduire.
Mais
non, on le voit bien, par exemple, les enseignants qui utilisent Internet. Ils s'aperçoivent que les enfants ne savent pas ce que c'est qu'un moteur de recherche et un navigateur. Ils ne voient pas la différence. Et ça, c'est encore rien par rapport à beaucoup d'autres choses ignorées par les jeunes. Vous savez, les jeunes, ils donnent souvent l'impression aux parents qu'ils savent bien utiliser Internet parce qu'ils acquièrent très vite quelques comportements adaptés aux espaces Internet qu'ils explorent, mais ils ne vont rien voir d'autre. Alors, ils sont dans leur silo, si vous voulez, ils sont dans leur silo, et les parents les voient tout le temps sur leur appareil numérique, ils se disent ils doivent les maîtriser. Pas du tout, ils connaissent que leur silo. Donc, c'est très important déjà de dire ça aux parents. Vos enfants, ils connaissent beaucoup moins Internet que l'impression que vous en avez, et c'est pour ça qu'il faut ouvrir le dialogue avec eux et utiliser... Pour s'informer ensemble, pourquoi pas un livre.
Oh, tiens, un truc qu'on a oublié, mais c'est vrai, il y en a des livres.
Et justement, comment est-ce qu'on explique à un enfant ce que c'est Internet ?
Alors, Déjà, en lui montrant comment on allume un écran, ça il le sait, mais qu'est-ce que c'est, je vous disais tout à l'heure, qu'un moteur de recherche, un navigateur, déjà on lui nomme. Hein, vous savez, on comprend mieux, beaucoup mieux les choses quand elles sont nommées. Sinon, tout est indifférencié. Et puis expliquer surtout à un enfant que sur Internet, tout ce qu'on y met peut tomber dans le domaine public, tout ce qu'on y met peut y rester éternellement, hein, c'est-à-dire nous poursuivre. Hein, voilà, une fois grand, on peut avoir envie de faire oublier ses bêtises, mais on peut en principe les effacer, mais ce n'est pas évident du tout, on en reparlera peut-être. Et puis surtout, il ne faut pas croire tout ce qu'on trouve sur Internet. Et je crois que c'est ces trois conseils-là d'abord que les parents doivent viser avec leurs enfants. Et s'ils font ce travail-là, il y a d'autres questions qui vont venir et après les parents répondent au fur et à mesure des questions. Vous savez, le numérique, c'est un petit peu comme la sexualité, il ne faut pas anticiper trop de choses non plus, mais il faut répondre, se rendre disponible aux questions quand elles arrivent.
Je signale votre autre ouvrage dans lequel il y a également beaucoup de conseils, 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans et grandir. Chez RS Éditions. Alors, docteur Tisseron, vous l'avez dit, hein, la plupart des enfants aujourd'hui sont nés avec Internet et vous expliquez comment leurs parents et grands-parents faisaient, par exemple, à l'époque pour communiquer ou se déplacer. Il faut revenir aux bases, c'est important.
Oui, ça, c'est la partie drôle du livre. Mais vous savez, il y a plein d'anecdotes là-dessus. Quelqu'un me racontait récemment que chez lui, il y avait encore un téléphone à fil. Un jour, un de ses petits-enfants arrive et dit « Papy, pourquoi tu as une ficelle attachée à ton téléphone? Tu as peur qu'on te le vole. » Voilà. Et puis, on sait bien que dans les marchés aux puces, hein, souvent, les adolescents voient des drôles de machines avec un cadran, ils ne savent pas ce que c'est.
Un Minitel, voilà. Ça doit être un objet obscur pour eux, j'imagine, hein, c'est vrai.
Donc, si vous voulez, montrer aux enfants que l'accélération technologique a été très rapide, mais c'est aussi leur montrer que beaucoup de parents aussi ont grandi, pas seulement les grands-parents, mais des parents ont aussi grandi sans réseaux sociaux. C'est 2006 quand même,
oui,
voilà, sans Internet. Et donc, expliquer ça aux enfants, ça leur permet de comprendre qu'il y a beaucoup, on peut faire beaucoup d'autres choses qu'aller sur Internet. Et ça, c'est important.
Et justement, donc, est-ce que vous avez 2-3 conseils pour essayer de vivre de façon déconnectée?
Oui, alors le conseil principal, c'est de se fixer des règles familiales, c'est-à-dire éviter d'utiliser des outils numériques pendant le seul repas qui est en général pris ensemble dans les familles. Bon, je sais, c'est le confinement, c'est un peu différent. Mais hors confinement, le seul repas pris ensemble,
c'est dîner,
en principe,
ouais.
C'est le repas du soir. Mmh. Voilà. Et donc, les prendre sans outils numériques, c'est-à-dire sans télévision, sans smartphone, sans tablette. Et ça, déjà, quand c'est suivi, c'est bien. Et puis, à partir de là, voir comment, quand l'enfant grandit, il peut fixer des règles avec ses copains. Par exemple, quand il mange avec ses copains, personne ne répond aux appels. Voilà. Et, et pourquoi pas, si on mange dans un restaurant, celui qui répond à un appel paye l'addition. Voilà. Et inventer comme ça des trucs collectifs. On est tous fragiles autant qu'on est. Si on n'établit pas des règles de groupe, on n'arrive pas à fonctionner.
On peut aussi faire des petits challenges familiaux. Allez, dis, tu apprends tous les numéros de téléphone de ton téléphone. Parce qu'on ne connaît plus aucun numéro de téléphone aujourd'hui. Hein. C'est
oui,
incroyable.
Mais ça risque de paraître un peu gratuit. Voyez. Alors, on peut s'amuser avec ça, faire marcher sa mémoire. Enfin, c'est plus joli, c'est plus agréable de jouer à des jeux de société comme Memory pour faire marcher sa mémoire.
Tout à fait.
Alors, vous l'avez dit, plusieurs générations ont grandi aussi, vécu avec les écrans. Mais est-ce qu'on est capable de faire plusieurs choses à la fois? Et est-ce qu'on peut, à ce moment-là, s'adapter au numérique? Est-ce que notre cerveau s'adapte à ça?
Alors, on peut faire plusieurs choses en même temps, à la fois, je veux dire.
Ça ne veut pas dire qu'on les fera bien, quoi.
Ça ne veut pas dire qu'on les fera bien. Beaucoup de femmes, depuis très longtemps, vu la quantité de choses qu'elles avaient à faire, se sont mises à en faire deux à la fois. Hein. Voilà, repasser, écouter la radio.
Vous voyez,
voilà,
un homme honnête, Jimmy, ça fait du bien sur ce plateau.
Voilà. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on peut faire deux tâches sur lesquelles on est concentré en même temps. C'est-à-dire que vous ne vous concentrez qu'une sur une seule des deux tâches. Vous êtes en voiture, vous écoutez un bulletin d'information, mais soit vous êtes concentré sur la route, soit sur le bulletin d'information. Et si vous êtes concentré sur le bulletin d'information parce qu'il apprend une nouvelle terrible, voilà, je ne sais pas, moi, qu'une bombe a explosé là où se trouvaient votre femme et vos enfants, ben, il vaut mieux vous arrêter au bord de la route plutôt que de continuer à écouter le bulletin en conduisant. C'est-à-dire, on peut être concentré sur une seule chose à la fois. Mais dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de choses qui ne nécessitent pas une grande concentration. Ceci dit, il a quand même été montré qu'on réussit mieux les choses quand on en fait qu'une, et surtout les choses sur lesquelles on se concentre, on en fait qu'une. Enfin, ce qui veut dire que pour faire son travail scolaire, il vaut mieux ne faire que son travail scolaire, et quand on tient à bien faire une chose, il vaut mieux la faire seule. Alors ça dépend aussi de l'activité. Par exemple, l'activité manuelle, souvent, se combine bien avec le fait d'écouter de la radio. Par contre, une activité intellectuelle, ça peut être plus compliqué. Mais ce qui est certain, c'est que les gens qui sont capables de faire deux choses à la fois auront un avantage évolutif dans les années qui viennent, parce que n'oublions pas que beaucoup d'employeurs demandent à leurs employés de faire deux choses à la fois, qu'on le veuille ou non. Voilà.
Bon, l'avantage de la radio, c'est que vraiment, on l'a compris, on peut faire plusieurs choses en même temps qu'on écoute cette émission, évidemment. Docteur Serge Tisseron, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Serge Tisseron. Vous êtes psychiatre, psychanalyste et membre de l'Académie des technologies. Vous êtes également le co-auteur avec Sophie Bordet-Pétillon du livre Les écrans et moi aux éditions IG. Alors dans votre livre, vous rappelez que la vie, on le sait évidemment, n'est pas virtuelle. Notre cerveau a besoin d'être nourri vraiment d'autres activités, sinon il arrive quoi à notre cerveau ?
Alors oui, tout à fait. L'alternance des activités avec ou sans écran. Vous savez, l'association 36912, on a trois grands principes. L'un des trois, c'est l'alternance. Il y en a un autre, c'est l'accompagnement par les parents. Et le troisième, c'est l'apprentissage de capacité d'autorégulation pour s'empêcher soi-même de faire quelque chose qu'on sait être nuisible à sa santé, à sa socialisation. Alors l'alternance, c'est vraiment une valeur fondamentale. Pourquoi est-ce que c'est important d'alterner les activités ? Ben d'abord parce que c'est important d'avoir des activités physiques. C'est beaucoup rappelé, ça a été beaucoup rappelé pendant le confinement, même sans aller jusqu'à 10 000 pas par jour. Voilà. Et encore plus pour un enfant, pour un adolescent qui a besoin de développer sa musculature par rapport à sa croissance.
Trop d'écran les font grossir, clairement.
Alors, il faut avoir des activités sportives, des activités physiques. Et puis, le trop d'écran, en effet, va faire courir le risque de grignoter. Voilà. Bon, beaucoup d'enfants, d'ados, hélas, grignotent en regardant les écrans. C'est pour ça qu'il faut imposer aux enfants de ne pas grignoter quand ils regardent les écrans. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il peut y avoir des troubles du sommeil en lien avec le fait d'utiliser les outils numériques tard le soir. Et vous savez, aujourd'hui, on sait que ces troubles du sommeil, ils ont à la fois un aspect qu'on peut dire quantitatif, c'est-à-dire pas assez de sommeil parce qu'on regarde les écrans trop tard, et puis un aspect qu'on peut dire qualitatif, ça veut dire que le sommeil est perturbé par la fameuse lumière bleue qu'émettent les écrans des outils numériques.
Alors on se rend compte qu'on est nourri par ces écrans, on est nourri de SMS, de likes qu'on peut avoir sur les réseaux. Est-ce que ça peut nous rendre plus addicts? Parce qu'on se rend compte que les enfants, lorsqu'ils sont derrière un écran, ils sont ensuite absorbés très longtemps et très facilement.
Et puis nous aussi, en tant qu'adultes, voilà. Alors, on peut voir les choses de deux façons. Ces deux façons sont très complémentaires. La première, c'est qu'il faut limiter notre temps, voilà. Il faut limiter notre temps sur les réseaux sociaux, se fixer des tranches horaires, ne pas y être tout le temps. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent avec leur smartphone en permanence. Et du coup, ils sont disponibles à rien d'autre parce qu'ils ont tout l'esprit accaparé. Donc déjà, s'imposer cette règle. Et puis d'autre part, être conscient du fait que les gens qui nous fournissent l'accès à Internet font tout pour que nous devenions, comme vous dites, addicts. C'est-à-dire que tout est fait pour que nous y restions le plus longtemps possible, pour donner toujours plus d'informations personnelles et éventuellement pour y dépenser toujours plus. Donc il faut être conscient de cela et là encore, s'entraider en groupe, voilà, s'informer mutuellement, parce que le risque, c'est que toutes ces sollicitations que nous recevons sur Internet sont tellement gratifiantes qu'elles fonctionnent pour notre cerveau un petit peu comme des produits très sucrés, voilà, comme les sodas, voilà, comme les pâtisseries, comme les barres chocolatées. Alors évidemment, ce n'est pas des produits qui vont flatter notre palais, mais c'est des produits qui flattent notre attente de récompense. Nous sommes félicités d'avoir répondu à une attente.
On ne peut pas s'empêcher de regarder le 8e épisode de la série Netflix, parce qu'il commence avant même qu'on ait choisi ou pas de le regarder le suivant.
Vous savez, aujourd'hui, il y a une nouvelle science, il faut quand même la nommer, qui s'appelle la captologie. La captologie, ce sont des scientifiques qui travaillent pour savoir comment faire pour que les utilisateurs des outils numériques y restent toujours scotchés plus longtemps. Et ils ont inventé un certain nombre de procédés qu'on appelle en anglais des dark patterns et qu'on peut traduire en français par piège à utilisateur. Un petit peu comme un animal qui court dans la forêt, pouf, tout d'un coup, il est pris dans un piège. Et vous surfez sur Internet et tout d'un coup, pouf, vous êtes pris dans un piège. Sauf que la différence du petit animal, vous n'en rendez pas compte. Et vous vous mettez à tourner en rond, vous mettez à tourner en rond dans cet espace dans lequel un dark pattern nous a rendus prisonniers. Et donc aujourd'hui, en Californie par exemple, les dark patterns viennent d'être interdits. Ça veut dire qu'il y a une question d'hygiène personnelle, d'organisation de sa vie, d'éducation. Puis il y a quand même aussi un volet législatif. Ces dark patterns aujourd'hui nous mangent le cerveau, littéralement. Ils bouffent notre temps.
Et est-ce qu'on a des données qui nous prouvent qu'un enfant qui passe trop de temps derrière un écran, eh bien c'est un enfant qui va aussi moins bien réussir à l'école? C'est pas pour faire peur aux parents, mais c'est aussi pour comprendre l'impact justement de ces écrans.
Oui, tout à fait. Alors, notamment un enfant qui passerait du temps sur les écrans le soir. Ce que tous les experts conseillent aujourd'hui, c'est de créer une sorte de couvre-feu numérique, d'ailleurs, de préférence pour toute la famille. On arrête les écrans à 22h, à 21h30, à 23h. Mais de façon à ce que les enfants aient quand même à peu près une demi-heure sans écran au moins, d'aller au lit. parce que, comme je disais tout à l'heure, la lumière bleue des LED, mais il y en a sur la télévision, ce n'est pas propre aux smartphones, aux écrans d'ordinateur. Voilà, cette fameuse lumière bleue perturbe les rythmes de sommeil, la sécrétion de la mélatonine, voilà, comme vous savez. Et donc, du coup, le sommeil est de moins bonne qualité. Alors oui, effectivement, un enfant qui a des troubles du sommeil à cause des écrans, aussi ça peut être des contenus choquants qui vont lui donner des cauchemars, tout ça fait que, évidemment, il va avoir moins d'attention, moins de concentration à l'école, la journée, et donc de moins bons résultats scolaires. Voilà.
On va parler des jeux vidéo à présent, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Moi, je bataille tous les week-ends avec mon fiston sur le sujet. Vous débutez dans le bouquin en disant que non, les jeux vidéo ne développent pas bien le cerveau, comme on peut parfois le lire, stimuler les enfants, etc. Non, ça, il n'y a pas de preuve scientifique de tout ça.
Alors, justement, les jeux vidéo, non, mais certains jeux vidéo, oui.
Ah, alors lesquels ? Dites-nous, on veut savoir.
Hein. Ça. Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, la recherche continue à avancer. Ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est que ce n'est pas des problèmes clos. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de certitudes, il y a 10 ans, qui n'en sont plus aujourd'hui dans le domaine des écrans. Parce que les technologies aujourd'hui permettent de faire des expériences beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles. On tient compte aussi de ce qui a été fait par le passé. Et donc, quels sont les jeux vidéo qui peuvent... Alors, d'abord, évidemment, il y a un problème de quantité. Même les jeux vidéo qu'on peut dire utiles à certaines fonctions psychiques, si vous y passez 4 heures dans la journée, vous perdez votre temps. Voilà. Si vous voulez, ça n'est utile qu'à moins d'une heure. Voilà. Mais il faut distinguer les jeux vidéo dans lesquels vous faites des choses répétitives, toujours les mêmes, voilà, et puis les jeux vidéo dans lesquels vous êtes invité à avoir votre attention concentrée en parallèle sur des choses différentes et puis utiliser des stratégies différentes. Et on dit que ces jeux vidéo augmentent la plasticité psychique, c'est-à-dire la capacité de faire face à l'imprévisible. Mais c'est seulement certains jeux vidéo, je ne vais pas faire de publicité pour aucun, mais on trouverait ça dans
les jeux de
les
sport,
livres,
par voilà. exemple, de foot, dans Un Célèbre, est-ce que ça fait du bien aux enfants? Parce qu'ils parlent en même temps avec leurs amis, ils élaborent des stratégies.
Alors, les jeux en réseau, c'est toujours mieux de jouer à plusieurs que tout seul. Mmh. Alors, l'idéal, c'est de jouer à plusieurs à la console, on est chacun assis les uns à côté des autres en physique. À défaut, jouer en réseau avec des camarades qu'on connaît. Voilà.
C'est déjà mieux que seul, en
voilà.
tout cas.
Mmh. Éventuellement avec des inconnus, mais enfin, l'idéal, c'est en présence physique ou avec des camarades qu'on connaît.
Alors, est-ce que vous avez quelques astuces pour que le fils de Mélanie joue un peu moins aux jeux vidéo, ou en tout cas qu'il joue avec modération? Mais qu'est-ce que c'est que la modération quand on parle de jeux vidéo?
Ah oui, très bonne question. Alors, le temps d'écran qui est conseillé par l'Académie américaine de pédiatrie, qui est considéré comme beaucoup par la référence, elle est ridiculement, c'est une durée qui fait rire tout le monde, parce que c'est de 1 à 2 heures par jour. Donc, si vous voulez, très vite, les ados y échappent et font beaucoup
ça
plus.
Ça va, hein, moi c'est 1 heure par jour, 3 jours par semaine, je ne suis pas si loin. Hein.
Ah ben oui, là vous êtes dans les clous. Après, il va falloir tenir. Hein, après.
Mais parfois, on ne sait même pas, moi je n'y comprends pas tout à leur jeu, en fait, voilà. Justement. Comment on sait, nous parents, que le jeu auquel il est en train de jouer, clairement, si je voyais du sang partout et des zombies en train d'être tués, je me dis que c'est peut-être pas de son âge, il a 11 ans. Comment je fais le tri?
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Alors d'abord, il y a la norme PEGI. Hein. Alors PEGI, ce n'est pas une petite fille, hein, c'est Pan European Game Information, PEGI. Et la norme PEGI qu'on voit écrite sur toutes les boîtes de jeux vidéo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants n'achètent plus de boîtes de jeux vidéo. Ils les téléchargent sur Internet et souvent, les parents ne sont pas au courant. Donc, il faut que les parents posent la question. Tu es en train de jouer à ce jeu, qu'est-ce que c'est? Donne-moi le nom. Puis les parents peuvent aller voir quelle est la norme PEGI correspondante. Mmh. Donc, éviter que les enfants jouent à des jeux qui ne sont pas de leur âge. Et puis, surtout, inviter les enfants à parler des jeux auxquels ils jouent. Parce que tout à l'heure, on évoquait en quelques mots que certains jeux peuvent augmenter la plasticité psychique. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'aucun jeu vidéo ne vous apprendra, c'est la capacité de raconter. Mmh. Et c'est très utile, la capacité de raconter dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, dans la vie sociale. Donc, pour inviter nos enfants à développer cette capacité de raconter, demandons-leur de raconter leurs jeux vidéo. Vous verrez, ils sont très contents.
Très bien. Docteur Tisserand, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Serge Tisserand. Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychanalyste et membre de l'Académie des technologies. Vous êtes également l'auteur du livre 3-6-9-12, apprivoiser les écrans chez RS Éditions. Alors, docteur Tisserand, les ados qui utilisent massivement les réseaux sociaux, c'est un autre souci ça pour nous parents, pour publier souvent tout et n'importe quoi, il faut le dire. Hein, on a tendance à penser que tout finit par s'effacer. Or, c'est faux. C'est faux et c'est vraiment une notion très importante à leur inculquer. C'est très difficile d'effacer nos données en réalité.
Oui, c'est très difficile et parce que nos données peuvent être relayées. Vous savez, en principe, le règlement général de protection des données européen permet maintenant à ceux qu'ils souhaitent d'effacer certaines données compromettantes. Mais le problème, c'est que si ça a été relayé, ben, c'est difficile de récupérer. Et puis, il faut comprendre aussi que le préjudice, souvent, il est très rapide. C'est-à-dire, vous mettez une photo de vous, et puis, bon, s'il y a quelques personnes qui ont envie de vous harceler, elles vont toujours trouver quelque chose de malsain dans la photo à condamner. Et donc, du coup, vous pouvez être harcelé un soir, deux soirs, une semaine. Ça ne vous consolera pas de pouvoir enlever la photo après. Donc, il faut vraiment insister beaucoup auprès des jeunes sur le fait qu'ils fassent très, très attention à ce qu'ils mettent sur Internet et à ce qu'ils disent. Et ne jamais dire à quelqu'un via les réseaux sociaux quelque chose qu'on ne lui dirait pas en le regardant dans les yeux. Et ne jamais mettre des photos de camarades sans leur demander l'autorisation. Il y a quand même un droit à l'intimité, bien sûr. Chacun n'est photographié, filmé que s'il donne son autorisation. Mais il y a aussi un droit à l'image qui fait qu'on peut accepter d'être photographié par son copain, sa copine. On n'a pas forcément envie que l'image se retrouve sur Internet.
Et ça peut tourner parfois au cyberharcèlement entre jeunes. Et comment est-ce qu'on fait, nous, en tant que parents, si on se rend compte que son enfant est victime justement d'harcèlement numérique?
Alors d'abord, il faut veiller à ce qu'il y ait un bon climat d'échange dans la famille. Si vous ne parlez jamais de rien, votre enfant ne va pas un jour venir vers vous pour vous raconter qu'il est victime de harcèlement. Donc c'est pour ça que c'est très important d'établir des moments de communication libre dans la famille, où peut-être on va parler de banalité ou de l'actualité, ou de ce qu'on mange. Le moment du repas du soir, hein, j'y reviens toujours. Et puis si un jour l'enfant à quelque chose qui le fait souffrir, qui le malmène, il est tombé sur un site porno, il est victime de harcèlement, ou il a vu son meilleur copain être victime de harcèlement, à ce moment-là, il sait qu'il y a un moment où en parler. Oui. Donc n'attendons pas avec nos enfants qu'ils aient des problèmes, parce qu'ils ne nous en parleront pas si nous attendons qu'ils en aient. Parlons déjà de tout ce qui va bien, des prochaines vacances, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end. Et comme ça, il y a un moment d'échange libre où l'enfant sait qu'il peut aborder ce qui le préoccupe.
Docteur Tisseron, à quel âge on peut laisser son enfant s'inscrire sur un réseau social? Parce que bon, bien sûr, il y a des règles. Hein, normalement, je ne sais plus, c'est 11 ans, 13 ans.
13 ans,
voilà.
En principe,
mais parfois,
oui.
À 10 ans, ils ont déjà leurs copains qui sont dessus en ayant menti avec l'âge au départ. Comment on gère ça avec les plus jeunes, en tout cas? Parce qu'souvent, ils nous pressent. Hein, ils veulent avoir un compte Facebook. Enfin, Facebook, peut-être pas, c'est un peu ringard maintenant, mais d'autres comptes, en tout cas.
Oui, Facebook, c'est pour les enfants. C'est
mais
les
Instagram,
vieux,
ou je ne sais quoi, voilà.
Oui. Ouais. Alors, écoutez, déjà, que les parents sachent à quoi correspondent ces différents réseaux. Voilà, alors c'est pas parce que M. Macron apparaît sur TikTok que TikTok est inoffensif. Voilà, c'est que beaucoup d'enfants, notamment de petites filles, se surexposent sur TikTok
très
d'une
jeune,
manière
hein.
qui est problématique pour elles. Donc il faut déjà que les parents sachent ce que sont ces réseaux sociaux et puis encore une fois qu'ils en parlent avec leur enfant et puis qu'ils veillent à ce que leur enfant ne tombe pas dans la course au like. Parce que c'est ça le grand problème
des
réseaux sociaux.
Ils ont l'impression d'avoir plein d'amis, avec plein de likes, c'est plein d'amis. Un like, c'est un ami. Hein,
tant que vous êtes sur les réseaux sociaux pour échanger, si vous voulez, les réseaux sociaux, dans le meilleur des cas, c'est un peu l'ambiance de la cour de récréation. Et comme, surtout en période de confinement, il n'y a pas de cour de récréation, on va sur les réseaux sociaux, on recrée l'atmosphère de la cour de récréation. C'est les petits potins, voilà, les petites histoires et tout. Le problème, c'est lorsqu'un enfant, le vôtre, tout d'un coup cherche toujours plus de reconnaissance sur les réseaux sociaux. Et si vous cherchez toujours plus de reconnaissance, ben vous exposerez toujours plus de vous. Alors, hélas, pour un enfant, c'est souvent son anatomie, ou alors tenir des propos provocants, du genre « je vais me suicider », voilà, de manière à attirer de la curiosité d'un certain nombre de gens, « mais non, on t'aime », etc. Donc, si un enfant cherche toujours plus de reconnaissance sur les réseaux sociaux, c'est là que ça devient dangereux. Mais ce que je veux encore ajouter, c'est qu'il a été bien montré que les enfants qui cherchent le plus de reconnaissance sur les réseaux sociaux jusqu'à s'y perdre, c'est ceux qui n'en bénéficient pas assez de reconnaissance, qui jugent ne pas bénéficier d'assez de reconnaissance dans la vie quotidienne. Oui. Autrement dit, parents qui nous écoutez, si vous voulez que votre enfant ne fasse pas un usage déconnant des réseaux sociaux,
faites-lui
intéressez-vous à ce qu'il fait, complimentez-le. S'il est content d'avoir réussi une épreuve dans un jeu vidéo, lui dites pas c'est con, dites-lui ben écoute bravo, est-ce que tu as des copains qui sont arrivés aussi, comment tu as fait, explique-moi. Ouais. Voilà, intéressez-vous à ce que vos enfants pensent avoir réussi ou à ce qu'ils pensent avoir échoué, de manière à ce qu'ils se sentent reconnus par vous. Ils auront moins besoin de se faire reconnaître de manière illusoire dans les réseaux sociaux.
Et un ado ou un pré-ado qui surfe sur Internet, c'est aussi un enfant qui potentiellement peut tomber sur de la pornographie. Alors parfois, on ne sait pas trop comment réagir, mais est-ce que c'est si grave que ça d'ailleurs? Est-ce que tôt ou tard, de toute façon, ils vont tous s'exposer? Est-ce qu'on doit banaliser ça ou est-ce qu'on doit être dans l'extrême inverse? C'est difficile de réagir en tant que parent.
Oui, c'est d'autant plus difficile que c'est difficile de prendre l'initiative de parler ces choses. Mais pourtant, il le faut. Et il le faut même assez tôt. Vous savez, un enfant qui a une, qui tombe sur des sites pornographiques quand il a 6, 7, 8, 9 ans, ça le malmène tellement qu'en général, il va faire en sorte de montrer ce qu'il a vu à des camarades, de manière à voir que ses camarades sont aussi malmenés que lui et qu'il n'est pas anormal d'avoir été malmené. C'est comme ça que c'est viral, comme on dit, c'est-à-dire que très vite, ça diffuse. Et il faut savoir que la pornographie, chez un enfant qui n'est pas encore pubère, c'est terriblement ravageur, parce qu'il n'a pas... Il se sent pas en état et pourtant le désir est là et donc ça lui fait beaucoup de mal. Après la puberté chez l'adolescent, bon, ça donne des modèles qui sont hélas très souvent machistes, misogynes, mais bon, on peut en parler plus facilement. Et puis surtout, ben, si le garçon tombe sur des filles qui lui disent non mais attends, on fait peut-être ça sur les sites porno que tu vas voir, mais moi je fais pas ça, bon, ben, il est bien obligé de s'apercevoir que la réalité c'est pas les sites porno. Mais il faut surtout être vigilant pour les plus petits et créer cet espace, comme je disais tout à l'heure, d'échange possible. Et puis quand l'enfant est petit, lui expliquer la sexualité. Il y a tellement de livres très bien faits là-dessus. Toujours s'aider d'un livre, ne jamais qu'il y ait seulement l'enfant et le parent, mais qu'il y ait l'enfant, le parent et l'expert. L'expert qui a écrit le livre pour parler de la chose avec lui.
Docteur Tisseron, pour terminer, les nouvelles générations, nos enfants, sont de plus en plus soucieux de l'environnement. Et bien, moi, j'ai trouvé une astuce intéressante dans votre livre. On peut leur expliquer comment, finalement, Internet pollue. On va terminer par ça.
Oui, beaucoup de gens l'ignorent. Internet pollue beaucoup et certaines personnes qui mènent la lutte pour une planète plus verte, moins polluée auprès des jeunes oublient, hélas, souvent de dire qu'Internet pollue énormément. Dans la fabrication des smartphones, dans le recyclage des smartphones, et puis dans la consommation électrique. Donc, de façon générale, veillons à avoir une consommation électrique sobre. Arrêtons nos appareils quand nous ne les utilisons pas. Choisissons des appareils qui consomment moins. Ne laissons pas nos appareils en charge inutilement parce que quand même, ça consomme de l'électricité. Oui, la pollution par le numérique est un énorme problème dont trop peu de gens ont conscience encore aujourd'hui.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Tisseron, d'avoir été avec nous cet après-midi. Et donc, pour en savoir davantage, je rappelle votre livre « Les écrans et moi » aux éditions IG. Merci encore, docteur.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, il est temps de soigner comme tous les lundis. J'ai voulu dire que c'était vendredi tout à l'heure, mais on est lundi.
On
commence bien la semaine en beauté avec vous, Benjamin Lévesque. L'été arrive dans quelques semaines, on l'espère. Nos journées sont de plus en plus ensoleillées et l'envie de bronzer aussi est de plus en plus forte pour certains. Mais attention, Benjamin, c'est justement le moment de bien préparer sa peau au soleil.
Mais oui, déjà, il faut savoir que le bronzage, c'est ce qui permet à la peau de se protéger des rayons UV du soleil. Or, au printemps, la peau est blanche, on ne s'est pas exposé pendant 6 mois et donc c'est le moment de l'année où notre peau est la plus vulnérable. Et comme l'explique la dermatologue Laurence Netter, le soleil est donc encore plus dévastateur pour notre peau.
Les UV sont des rayons du soleil qui sont très mauvais parce qu'ils pénètrent suivant que ce sont des UVA ou des UVB plus ou moins profondément dans la peau et ils vont entraîner des dégâts qui sont irréversibles au sein de nos cellules et du fameux ADN. Tout d'abord le vieillissement solaire qui est surtout dû aux UVA et le coup de soleil qui est surtout dû aux UVB. Ils entraînent des modifications profondes dans la cellule qui peut être à l'origine de cancer de la peau. Certains sont un petit peu moins graves, c'est ce qu'on appelle les carcinomes basocellulaires, et puis le plus redoutable qui est le mélanome qui est mortel.
Bon, faut avouer, Benjamin, que ça fait assez peur, mais comment est-ce qu'on fait justement pour préparer sa peau au soleil ?
Ça vous intéresse, hein ? Ça vous intéresse.
Oui. Est-ce que du côté de l'assiette, on peut faire des petites choses ? Ça m'intéresse encore plus.
Et oui, ce n'est plus un secret. Il faut mettre l'accent sur les aliments riches en bêta-carotène. Alors, ce n'est pas les kebabs, Jimmy. C'est parce que c'est eux qui vont
colorer.
Il y a des
tomates dedans.
Il faut faire le plein de carottes, de patates douces, d'épinards, certaines épices aussi, comme le curcuma et le safran. Et on va aussi faire le plein de lycopène. C'est un pigment naturel qu'on retrouve dans la tomate, alors cuite de préférence. Et dans les brocolis. Et à l'inverse, il vaudrait mieux éviter les aliments trop riches en vitamine C, comme le dit Isabelle Barra, qui est nutritionniste à Paris.
La vitamine C va diminuer l'action de l'enzyme, qui est la tyrosinase et qui transforme la tyrosine en mélanine. Donc les fruits et les aliments riches en vitamine C seraient plutôt à écarter au moment des séances de bronzage, au moment de l'été. D'ailleurs, la vitamine C est un actif de la cosmétique qui est très utilisé pour éclaircir la peau et lutter contre les taches, on appelle ça les taches de vieillesse, les taches de mélanine. C'est un actif qui est très utilisé en Asie, notamment pour éviter les taches au niveau de la peau.
Et pour éviter de peler, cette spécialiste conseille de mettre dans son assiette des aliments riches en vitamine A qu'on retrouve par exemple dans le foie de veau, le beurre ou encore le fromage.
Bon, alors Jimmy, lui, il n'aime pas les carottes. Qu'est-ce qui existe pour lui du coup?
Et oui, je pense à tout le monde, même les plus fainéants. Il existe des compléments alimentaires qu'on peut acheter en pharmacie ou en magasin bio. Alors ce sont des gélules ou des petits bonbons à avaler qui sont composés d'actifs pour préparer le corps à lutter contre les agressions du soleil, comme l'explique David Gonoun. Il est le fondateur des Miraculeux.
On utilise d'abord du bêta-carotène et du cuivre qui vont avoir une action un petit peu auto-bronzante, donc qui vont commencer à pigmenter la peau avant l'exposition. Et deux autres actifs qui sont l'astaxanthine et la lutéine, qui sont aussi des pigments naturels et qui vont avoir un effet de préparation de la peau à l'exposition et qui vont du coup éviter l'effet vieillissant que peut avoir le soleil, les rayons UV sur la peau grâce à une action antioxydante.
Et ce n'est pas parce qu'on prend des compléments alimentaires que ça y est, c'est open bar. Hein. On ne s'expose pas au soleil sans faire attention.
Bien donc, sûr, bien sûr.
On met de la crème solaire, du
ça.
Coup. Mais oui, tous en cœur, Mélanie. On
j'allais
à fond,
dire
là.
La crème.
On est bien dans une émission de santé. Et oui, c'est la meilleure des protections. Elle n'est pas réservée qu'à la plage. Aujourd'hui, on peut aller travailler avec de la crème solaire sur le visage, puisqu'il en existe maintenant des crèmes solaires teintées. Et elles sont tout aussi efficaces que les crèmes classiques, comme l'explique Agnès Castelli. Elle est pharmacienne pour les laboratoires Biarritz.
Lorsque vous regardez ces crèmes, vous voyez l'indice de protection solaire qui est indiqué, donc 30, 50. Et ces indices, ils sont déterminés par des tests très précis et qui sont exactement les mêmes pour toutes les crèmes solaires à partir du moment où elles revendiquent une protection contre les UVA et les UVB. Donc ça protège exactement de la même façon.
Et avant de s'exposer au soleil, on évite de faire des gommages, car comme le dit le docteur Laurence Netter, ça va rendre votre peau plus vulnérable aux rayons UV.
Quand on se met au soleil, la peau s'épaissit de façon à mieux résister au soleil. Il y a une accumulation de cellules cornées. C'est ce qui donne d'ailleurs, quand le bronzage est un peu vieux, un aspect un petit peu terne. Et cet épaississement de la peau va concourir également à la protection de notre peau.
Et un dernier remède maison, c'est d'appliquer de l'huile de carotte le soir sur la peau avant de se coucher. C'est parce que c'est riche en bêta-carotène et en antioxydants.
De carotte, hein, Jimmy, retenez juste ça, ça suffira. Merci beaucoup Benjamin pour ce conseil beauté.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, depuis 15h. Et c'est Catherine Blanc qui entre en scène à présent. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question de Mike. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Catherine. Alors moi, je vous appelle parce que l'autre jour, j'ai eu un collègue qui est venu au travail avec trois énormes suçons. Je vous cache pas qu'il était quand même assez gêné et très, très contrarié de la situation. Et moi, je me suis posé la question de savoir quel était finalement l'intérêt de faire un suçon à quelqu'un, parce que je vous cache pas que je comprends pas. Donc si vous pouvez m'expliquer, voilà. Très belle journée, au revoir.
Alors, une question pour son copain, hein, finalement. Catherine, on fait encore des suçons. Moi, je le découvre aussi. Je pensais que c'était un truc de il y a longtemps, mais non, ça se fait toujours.
Bon, écoutez, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se fait chez son collègue. En tout cas,
c'est... Mais pourquoi on fait ça alors? Pourquoi on faisait des suçons? Pourquoi on fait des suçons en réalité?
Alors, c'est assez mignon. C'est une façon de marquer son territoire. C'est-à-dire, on marque l'autre de son empreinte. On montre qu'il est avec quelqu'un ou qu'on traduit de ce qui s'est joué. Comme ça, personne ne peut ignorer, évidemment, dans une zone qui est censée être un peu intime, le coup en faisant partie. Donc ça, il y a ce côté-là. Et puis, il y a aussi l'idée que dans le désir, comme si on mangeait l'autre, on absorbait l'autre. Donc, mettre sous son emprise un peu à la Dracula, en quelque sorte, hein, parce que c'est souvent dans ces lieux-là, comme on retrouve dans
le Dracula.
Exactement. Et puis vouloir cette appropriation de manger l'autre et de transformer l'autre, de le faire sien. Voilà. Donc, c'est évidemment que ça, du coup, ça laisse la personne qui a la marque du suçon visible de tous. Et évidemment avec la gêne de ce que ça témoigne de cette intimité partagée.
Ça veut dire qu'on peut vraiment prendre du plaisir lorsqu'on fait un suçon, en fait. On a l'impression de manger, mais dans ce cas-là, on n'aura qu'à mordre. Pourquoi on va...
Alors,
non, c'est un peu
Jimmy, je crois qu'il n'en a jamais fait des suçons.
Non, mais il y a aussi la tétée en tête, la peau de l'autre. Enfin, ça renvoie à des choses très, très primitives, hein, de notre relation à l'autre, à manger l'autre, absorber l'autre.
Je vois notre réalisatrice qui grimace, elle ne doit pas aimer les suçons non plus. Géraldine.
En tout cas, on ne peut pas recevoir du plaisir à avoir un suçon. Est-ce qu'à l'inverse, on peut...
Ah si, parce que ça peut être... Enfin, pas nécessairement, ça dépend où c'est fait. Mais
on ne vous a jamais fait un suçon, Jimmy, ça n'a aucun intérêt.
On peut se dire aussi que ça fait des frissons. Encore une fois, là, je parle du coup, mais si c'est un suçon sur le bras...
Des frissons, oui, un coup de langue, ça donne des frissons.
Moi, j'avais une copine qui se faisait elle-même des suçons pour faire croire qu'elle avait un copain, mais sur le bras.
Donc, vous voyez bien qu'il y a une idée d'appartenance et une idée de raconter une histoire ou un vécu que l'on a ou pas, dans le cas de votre ami.
Il faut être assez proche quand même, non, avec la personne pour la mordre dans le cou, faire un suçon.
C'est pas, on fait pas ça. Mélanie, si vous faites ça, je vais mal le prendre, ma femme aussi.
Je parle intimement, on est d'accord. Mais ok, pour des ados, à la limite, je comprends. Mais quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, je sais pas quel âge a ce collègue, au bureau, ça, c'est un peu gênant quand même, non? Je comprends un peu celui qui pose la question finalement.
Oui, mais vous savez, c'est un petit peu. C'est assez drôle, ce sentiment effectivement très immature de vouloir que l'autre nous appartienne, vouloir marquer son territoire. Et effectivement, on le voit assez classiquement chez les ados et exclusivement ou quasi exclusivement chez eux. Mais il y a des résurgences chez les adultes de ce manque de maturité, de ce besoin de dire tu es à moi, de ce besoin d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, certains, c'est dans le parfum, on parfume l'autre avec son parfum, ou comme si on avait besoin de dire voilà, ça y est, j'ai marqué mon territoire, ça y est, tu es à moi. Et d'ailleurs, ça fait partie de quelque chose de très érotique. Je me souviens d'une personne célèbre qui disait de son partenaire tout aussi célèbre « J'aime sa façon de m'indiquer et d'indiquer aux autres que je lui appartiens ». Ça fait partie du fantasme de certains.
Je ne vous ai jamais dit ça, Catherine, pourtant même dans
mes recherches. Mais je vous rappelle...
Imaginez, par exemple, on voit notre enfant, notre adolescent avec un suçon. Est-ce qu'on doit le remarquer? Parce que ça se voit comme un bouton au milieu de la figure. Mais est-ce qu'on doit lui faire une remarque? Est-ce qu'on fait comme signe de rien n'était? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est grave ou pas?
Non, ce n'est pas grave, bien sûr. De toute façon, plus le suçon disparaîtra.
Ça dépend de la taille du truc, quoi, quand même. Oui, mais alors le cou entier rempli de suçon. Moi, je pense que je lui dirais quelque chose à mon ado. Non, mais il est trop jeune, le mien. Mais
Je pense qu'il y a deux possibilités, en effet, où on ignore le truc parce qu'on sent bien que son ado a envie de l'exposer et on n'est pas obligé de partager son intimité, alors on peut se faire comme si on ne l'avait pas vu, ou alors on peut se dire, puisqu'il me l'expose, je peux en faire l'occasion d'un échange. C'est-à-dire, bah, c'est super, manifestement, tu as une vie, tu partages une intimité avec quelqu'un, c'est chouette, mais tu avais toi-même la volonté de ça? Est-ce que tu es dans la tranquilité de ça?
Te donner du fond de teint. Tu peux lui dire,
est-ce que ça te fait plaisir d'exposer ça, ou est-ce que tu veux le masquer, en effet? D'ailleurs, est-ce que le masquer, c'est pourquoi? C'est pas parce que c'est une honte, mais voilà, je pense que ça peut être l'occasion de parler de la relation, de la relation d'intimité. Et intimité ne veut pas dire mélange de l'un et de l'autre, ne veut pas dire perte de son identité personnelle, ne veut pas dire être la chose de l'autre. Et simplement, dans la mesure où c'est consenti, où c'est un jeu, franchement, c'est mieux qu'un tatouage.
Parce qu'un tatouage, je préfère qu'il se fasse un suçon qu'un tatouage.
Ah oui, 10 suçons qu'un tatouage. Ah oui, non, c'est clair. Imaginez un dauphin sur le bas du dos, là, ou un truc.
Bon, très bien, on a compris. Donc, un geste pour faire comprendre à l'autre, enfin, que l'autre fasse comprendre qu'on lui appartient, quoi, c'est ça.
Oui, hein, alors après, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà.
Peut-être pas. Chacun fait comme il veut. Liberté, liberté chérie, comme vous dites souvent. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Et donc, à demain. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Vous avez le trac avant votre émission? Parce que nous, on va parler de gens qui ont le trac avant de monter sur scène. Ah oui. Ils avaient la trouille. Frédéric Chopin, par exemple, il ne supportait pas d'aller jouer en public. Yves Montand. Il avait une trouille. On ne sait pas, mais il avait vraiment la trouille avant de monter sur scène. Et vous avez...
Françoise Hardy, quand est-ce la dernière fois que vous avez vu Françoise Hardy en concert?
Ah ben moi, je l'ai jamais vu en concert.
1968. Ça fait 50 ans qu'elle fait plus de concerts, en tout cas en live. Pourquoi? Parce qu'elle a un trac fou. On essaiera de comprendre pourquoi.
J'ai le trac avant l'émission, ça ne m'étonne pas, moi aussi.
J'allais dire, ils n'ont jamais le trac, mais apparemment si. On restera à l'écoute, bien sûr, et vous aussi, restez sur Europe 1.